Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal présenté par Patience Ngalulambombo.
D'abord les titres. Explosion du 3 mai dans les sites des déplacés de Lushagala au Nord Kivu. Au moins 27 blessés sur la trentaine des victimes suivent des soins à l'hôpital Bethesda CBK Ndosho. Ces personnes disent avoir vécu l'horreur ces jours-là. Entre-temps, les corps des défunts sont encore à la morgue en attendant l'organisation des obsèques. Fin ce jeudi 9 mai de la réception et traitement des candidatures aux élections municipales dans la province du Sud Kivu. 31 formulaires seulement ont été retirés, mais aucun dossier physique des candidats n'a été déposé au bureau de la CENI. Le secrétaire exécutif provincial antenne du Sud Kivu déplore cette attitude des candidats qui ne respectent pas les délais. L'invité de ce journal est Damien Mama, représentant résident du PNUD en RDC. Les programmes des Nations Unies pour le développement financent les travaux du programme de développement de 145 territoires dans 9 provinces, 6 ouvrages déjà réalisés, dont les Maniema sur 103 attendus. Bonjour à tous. Au Nord Kivu, au moins 27 blessés sur la trentaine des victimes de l'explosion survenue dans les sites des déplacés de Lushagala le 3 mai dernier suivent des soins à l'hôpital Bethesda CBK Ndosho, appuyé par le CICR. Ces personnes témoignent avoir vécu l'horreur ces jours-là alors qu'elles étaient tranquilles dans leurs abris. Parmi ces victimes, des familles complètement affectées par des morts et des blessés, une situation traumatisante. Entre-temps, les corps des défunts sont encore à la morgue une semaine après l'incident en attendant l'organisation des obsèques. Sifa Maguru a rendu visite à ses blessés. Voici son reportage.
Parmi ces blessés, une jeune femme qui a perdu ses 3 enfants, dont un bébé de 2 semaines, alors qu'elle-même et son fils aîné de 7 ans sont grièvement blessés par des éclats. Explication de sa belle-sœur qui est gardée malade.
Au moins 4 bombes sont tombées et la 5e est tombée à l'église Sepak bloc 4. On nous dit que ma belle-sœur est morte avec ses 4 enfants. Jojo a reçu des éclats au ventre, sur toutes les 2 jambes, les mains et au visage. Nous sommes allés dans d'autres hôpitaux. On nous dit qu'on a reçu un bébé décédé et on a compris que c'est notre enfant parce que la maman venait d'accoucher il y a 2 semaines.
La plupart de ces blessés sont venus des Sake, Chacha et alentour. Élisée Hangi, une autre mère qui a 2 enfants blessés, nous raconte comment ils ont été surpris par cet incident.
Nous étions à la maison sans s'attendre à quelque chose. Subitement, nous nous sommes retrouvés par terre. Beaucoup de gens ont perdu connaissance, moi-même aussi. On s'est retrouvés ici à l'hôpital. Et pour arriver ici, c'était tout un problème. Pas de transport et des coups de feu retentissaient.
Toutes ces familles sont encore sous les chocs après avoir vécu cette explosion et ne souhaitent qu'une chose, rentrer dans leur village, même si ce n'est pas garanti. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Pour faire face à cette situation d'urgence, le CICR a dû augmenter sa capacité d'intervention à l'hôpital CBK afin d'assurer une bonne prise en charge aux blessés qui affluent dans cette structure spécialisée en chirurgie de guerre. Sur place, parmi les blessés qui suivent des soins, certains sont déjà stabilisés tandis que d'autres présentent encore des traumatismes. Aliona Sinenko, porte-parole du CICR, explique au micro de Sifa Maguru.
Vendredi dernier, nous avons reçu 27 patients. 26 entre eux, c'était les femmes et les enfants. Beaucoup d'entre eux sont arrivés ici en état très très grave, parce qu'on ne parle pas uniquement des blessures par balle, mais on parle des blessures causées par des engins explosifs. Donc ce sont des blessures très complexes qui font beaucoup de dégâts. Et il y a beaucoup de défis. Si vous avez vu, il y a des tentes que nous avons installées dehors, et ça montre que en fait depuis déjà plusieurs mois l'hôpital il travaille au-dessus de sa capacité, que nous n'avons pas assez d'espace pour tous les patients dans les salles. Donc, mais c'était la seule chose qu'on pouvait faire rapidement pour pouvoir accueillir tous ces patients. Donc la situation reste difficile. Notre équipe continue de travailler. Au moment donné, ils ont passé d'une équipe chirurgicale à 3 équipes chirurgicales qui travaillaient aussi les week-ends, les jours fériés, sans arrêt.
Dans les territoires de Beni, 8 morts et des disparus avec un centre de santé saccagé. C'est le bilan encore provisoire d'une nouvelle attaque des rebelles des ADF dans la localité de Mantumbi, en secteur de Benimbao. La société civile territoire parle d'un déplacement massif de la population vers les localités du territoire de Mambasa, en Ituri, jugé sécurisé. Pendant ces temps, l'armée dit être à la trousse de ces rebelles pour tenter de sauver les otages. Marc Marofimbo pour des précisions.
La société civile affirme que ces rebelles ADF seraient venus de la localité de Passidi du territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri, d'où ils ont d'abord tué 2 civils et capturé une femme qui, par miracle, s'est échappée de leurs mains. C'est cette dernière qui aurait alerté les services de sécurité de Mandumbi. C'est vers 18h30, heure locale, que l'ennemi a fait incursion dans la localité de Mandumbi, située à l'ouest du territoire de Beni, précise la société civile. Omar Kalicia, président de la société civile territoriale de Beni, parle des morts de trop.
Ce sont des morts de trop. Pour le moment, nous comptons provisoirement 8 personnes, le malade au lit de l'hôpital, le comptable du centre de santé. L'IT du centre de santé, pour le moment, est porté disparu. Une maison incendiée, nos biens portés disparus. Nous voulons aussi que le commandant de Mandumbi nous explique après qu'il a reçu l'alerte d'une maman qui est sortie des mains des ADF la journée et la même soirée, comment l'ennemi est parvenu même à tuer les gens. Et nous venons encore d'enregistrer d'autres déplacés en direction des agglomérations.
La présence des ADF est encore signalée dans cette zone depuis les multiples attaques dans la zone de Mangina et Sayo dans la ville de Beni il y a quelques semaines. Pour la société civile, la coalition FRDC-UPDF doit lancer des opérations de grande envergure dans cette zone. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Pendant ce temps, en Ituri, des centaines de familles ont regagné leur village d'origine et les activités agricoles et économiques ont repris dans 3 groupements sur les tronçons Komanda Luna dans les territoires d'Irumu. Ce constat est fait mercredi par les acteurs de la société civile locale dans le cadre de l'évaluation de l'accord de paix signé en juin 2023 entre les communautés locales ainsi que les groupes armés locaux. C'était grâce à l'appui de la MONUSCO pour la cohabitation pacifique et la restauration d'une paix durable dans cette entité. Isaac Remoyopi.
Une accalmie s'observe depuis la signature de l'accord de paix entre les communautés Lesse et Nande dans les chefferies de Walese Vonkutu et Basili, affirment des sources locales. Les groupes armés Chiniatuna et Maïmaï, qui protégeaient les intérêts de ces deux ethnies respectives, ont renoncé aux violences qui avaient entraîné les déplacements des populations d'environ 70 villages le long de l'axe routier Komanda Luna. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH soutient que plus de 800 familles ont déjà regagné leurs milliers dans les groupements Bandiango, Bokucho et Bandiamousso. Ces retournés ont repris les activités agricoles dans la zone. Les boutiques et les marchés des vivres sont également opérationnels. Cependant, un retour timide des agriculteurs s'observe notamment à Apindi 1, 2, 3 et Mangiva. La commission de suivi de ces dialogues, composée des ressortissants des deux communautés jadis en conflit des terres arables, poursuit la campagne de sensibilisation pour consolider ses acquis de paix. Cette structure sollicite l'appui du gouvernement et de la MONUSCO, dont une équipe s'était rendue le week-end dernier à Komanda pour évaluer l'impact des cet accord de paix. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Direction la province du Haut-Lomami où la société civile de Malimbankoulou tire la sonnette d'alarme. Plusieurs barrières sont érigées par des hommes en uniforme dans de nombreux villages du secteur des Badia. Ils tracassent et rançonnent la population. Elle invite les autorités à démanteler toutes ces barrières pour faciliter la circulation de la population et de ses biens. On écoute Bovik Mujinga, coordonnateur de la société civile dans le territoire de Malimbankoulou, joint par Jean Gandou.
La société civile dans sa diversité territoire de Malimbankoulou vient dénoncer l'existence de beaucoup de barrières érigées dans les secteurs de Badia. Dans les villages de Kingombe, Moussao, Kisanga, Kalengei, Kalongo, Kikose et autres. Nous demandons au gouvernement provincial national qui est l'administrateur du territoire de Malimbankoulou de bien prendre la disposition pour que les barrières ne soient pas érigées. Dans le secteur de Badia, oui, le territoire de Malimbankoulou, nous ne sommes pas en guerre. La société civile déplore beaucoup les inciviques qui tracassent la population de Badia. Surtout les gens qui viennent des Kabongo, des Kasai, ils sont en train de souffrir lors de son passage vers Malimbankoulou.
Et puis, fin ce jeudi 9 mai de la réception et traitement des candidatures aux élections municipales dans la province du Sud Kivu. La CENI Antenne du Sud Kivu constate malheureusement que les candidats conseillers urbains et les bourgmestres ne manifestent pas assez d'engouement. 31 formulaires seulement ont été retirés, mais aucun dossier physique des candidats n'a été déposé au bureau de la CENI. Le secrétaire exécutif provincial Antenne du Sud Kivu déplore cette attitude des candidats qui ne respectaient pas les délais. Pius Bikungu pense que la CENI devrait mettre fin aux prolongations pour stimuler les candidats qui excellent dans les retards. Pius Bikungu, dans ses propos recueillis par Jean Kassami.
C'est depuis le 25 avril 2024 que nous avons ouvert les bureaux de réception et traitement des candidatures des conseillers urbains et de bourgmestres et bourgmestres adjoints. Nous avons déjà vu les gens venir retirer les formulaires. Nous avons jusqu'hier 18 personnes sont venues retirer les formulaires pour les conseillers urbains, tandis que pour les bourgmestres, il n'y avait que 13. Mais jusque-là, il n'y a aucune personne qui a déjà déposé un dossier de candidature. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai 2024. C'est le dernier jour de réception et de traitement des dossiers de candidature. Nous attendons, peut-être au courant de la journée, il y a encore ceux-là qui vont venir. Je ne saurais pas dire quelles sont les raisons parce que je ne suis pas dans leur cœur, mais peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts, peut-être que les partis politiques ne sont pas intéressés. Je ne sais rien dire jusque-là, mais ce que je sais est qu'ils ne sont pas encore venus.
Notez que la date du vote des conseillers urbains et des bourgmestres au Sud Kivu n'est pas encore connue au secrétariat exécutif provincial de la CENI Sud Kivu. Au Kasaï oriental, suspension momentanée des examens à l'université officielle de Mbujimayi, UOM, dès ce mercredi jusqu'à mardi prochain. Cette décision vient d'être annoncée ce mercredi par les recteurs de l'université officielle de Mbujimayi au cours d'un point de presse avec les journalistes des médias locaux. Professeur Abe Chibaka Chikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi, a également annoncé la réouverture des guichets des inscriptions des étudiants jusque-là non reconnu par l'université. Professeur Abe Chibaka Chikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
À la demande de la coordination des étudiants, nous avons pris trois décisions. La première, c'est que le guichet des inscriptions est réouvert. Les étudiants retardataires vont pouvoir prendre leurs inscriptions, mais cela, ça va jusqu'à dimanche. Mais c'est une mauvaise habitude dans notre université parce que vous avez des gens, ils étudient toute l'année. Il présente les examens, mais il n'est pas inscrit. La deuxième décision que nous avons prise, c'est que la session est suspendue. Elle reprend mardi de la semaine prochaine. Parce que nous avons observé que grâce à la pression, lundi et mardi, 881 étudiants ont régularisé leur situation, ont payé les frais. Et donc, pour permettre à tous les étudiants qui veulent régulariser leur situation, à la demande de la coordination des étudiants, nous avons donc accepté de suspendre la session. Comme ça, ceux qui régularisent leur situation peuvent automatiquement prendre part aux examens qui sont prévus. La troisième décision que nous avons prise, c'est que les étudiants casseurs et les étudiants qui ont donc provoqué du désordre devront donc patienter. Il y a déjà des auditions en cours. On a suffisamment de vidéos qui nous ont permis d'identifier les casseurs.
Autre nouvelle, début ce jeudi à Kolwezi de la 7e conférence sur l'énergie. Selon son initiateur, l'opérateur économique Eric Monga, cette rencontre se veut un cadre de réflexion pour voir comment la RDC peut réduire les déficits énergétiques qu'elle connaît. C'est notamment en faisant recours aux énergies renouvelables. Eric Monga donne d'autres détails. Il est joint par Jean Gandou.
Pour l'instant, les efforts de l'accès à l'énergie pour la population, l'économie ainsi que l'État est quand même faible pour la RDC. Et ce, à côté des plus grandes réserves qui puissent exister, tant en renouvelable qu'en non renouvelable. Et aussi, par rapport à la transition énergétique, qu'est-ce que nous pouvons gagner dans cette transition énergétique tant prônée dans le monde entier? C'est ainsi que nous voulons nous mettre tous ensemble encore pour voir qu'est-ce qu'il faut pour enclencher, pour avoir cette flamme afin que l'accès à l'énergie puisse être amélioré. Il y a d'une part la population qui veut ça, quel est son comportement à faire. Les investisseurs veulent investir dans le secteur et l'État aussi doit faire sa part de travail. Et au bout de cette réflexion, on voulait donner encore d'autres recommandations à l'État, aux opérateurs économiques et aussi à la population. Depuis quasiment plus de 40 ans, on accroît très peu 10 mégawatts par année, ce qui est insignifiant pour un pays comme le nôtre. Et pourtant, les besoins sont urgents. Le déficit est énorme.
Actualité internationale.
Un Boeing 737 transportant 85 personnes est sorti des pistes à l'aéroport de Dakar, la capitale du Sénégal, blessant 10 personnes, a déclaré jeudi le ministre des Transports. Le ministre des Transports, El Malik Ndiaye, a déclaré que le vol d'Air Sénégal a opéré par Transair, s'est dirigé vers Bamako mercredi en fin de journée avec 79 passagers, 2 pilotes et 4 membres du personnel de cabinet. La Cour suprême du Ghana a commencé à examiner un recours contre les projets de loi anti-LGBT et plus adoptés par le Parlement en février. La Cour a accédé à la demande de l'avocat et journaliste Richard Delascaille de contester les projets de loi controversés. Ces projets de loi prévoient une peine d'emprisonnement de 3 ans pour les personnes qui s'identifient comme homosexuelles et de 5 ans à 10 ans pour les défenseurs des LGBT.
L'invité.
Damien Mama est notre invité. Il est le représentant résident du PNUD en RDC. PNUD qui finance les travaux du programme de développement de 145 territoires dans 9 provinces a reçu de Safricas 6 ouvrages réalisés dans la province du Maniema sur les 303 attendus. Damien Mama donne ses appréciations dans cet entretien accordé à Florence Kizalunga.
Monsieur Damien Mama, bonjour.
Bonjour madame.
Après une année de travaux, Safricas revient de vous remettre quelques ouvrages réalisés dans le cadre du PDL 145 territoires. Comment appréciez-vous ces travaux?
Effectivement, ça a pris à peu près une année pour avancer dans les travaux et je suis très heureux de voir que nous avons à peu près 5 infrastructures qui sont déjà prêtes sur les 103 pour la province du Maniema. Et nous avons symboliquement remis l'école primaire Lomamba dans le territoire de Kailo au gouverneur et nous allons poursuivre la remise du reste des infrastructures dans cette semaine. Mais en plus des 5 infrastructures, il y a une bonne partie qui a progressé. Vous avez vous-même constaté lorsqu'on s'est arrêté à Kampala, toujours dans le territoire de Kailo. Il y a un hôpital qui est prêt, mais parce que ce n'est pas encore équipé, on ne remet pas. Et nous avons beaucoup de travaux qui ont avancé dans l'ordre de 90%, 80% par là. Et nous allons continuer à remettre chaque mois, une fois que ces infrastructures sont progressivement prêtes. Les travaux que j'ai vus hier sont de très bonne qualité et ça reflète un peu les normes que nous avons dictées dès le départ. Et les entreprises sont donc appelées à se conformer à ces normes au cahier de charge, de sorte que les infrastructures qui sortent de terre dans le cadre du PDL 145 territoire dans le Maniema puissent respecter les normes qui ont été instituées par le gouvernement, mais qui respectent aussi les standards internationaux.
Vous venez de nous dire qu'il y a d'autres ouvrages à livrer. Est-ce que c'est encore dans les délais?
Bon, en fait, tout le programme dans son ensemble n'est pas dans les délais. Vous savez, on fixe un délai. Et puis, face aux défis logistiques, climatiques, sécuritaires, un peu partout, on est obligé d'ajuster. Mais quand on regarde le niveau des défis par rapport au travail qui est maintenant fait, je peux bien sûr nous féliciter d'être dans des délais raisonnables. Pas les délais initiaux, mais des délais raisonnables. Parce qu'il faut bien sûr s'assurer que le cahier de charge est respecté. Et vous savez, ici, on est confronté dans le Maniema à une pénurie de matériaux de construction. Ça prend du temps pour être acheminé de localités environnantes comme le Nord Kivu, la Tchopo. Donc, dans ces conditions, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour acheminer du matériel. Et cela joue aussi sur les délais. Mais je peux vous rassurer qu'une fois qu'on a commencé, on est en train de progresser. Nous faisons la pression sur les entreprises pour accélérer. Et c'est ce que les autorités provinciales nous ont demandé. Et c'est ce que nous voulons d'ailleurs. Donc, on va accélérer et s'assurer que nous fassions le reste des travaux dans des délais raisonnables.
Sur une centaine d'ouvrages à remettre, seulement 5 ou 6 qu'on vient de vous remettre, vous êtes satisfait de ça?
Mais bien sûr, parce que nous ne remettons pas les infrastructures tant qu'elles ne sont pas totalement finies et équipées. Je vous ai dit, on a une vingtaine qui sont à des niveaux de réalisation qui peuvent même permettre aux enfants de les occuper. Mais les standards du PNUD sont tels que nous ne pouvons pas remettre une infrastructure qui n'a pas les classes finies, les plafonds terminés, les toilettes finies, les conteneurs d'eau complètement finalisés, les sanitaires posés. Donc, on veut s'assurer quand même que tout est là. Et c'est parce que on veut s'assurer que tout est là que nous sommes obligés parfois de retarder un tout petit peu la remise, mais en termes de progression, les travaux progressent.
PNUD, dans le cadre d'exécution de ce projet, vous financez ces travaux dans presque 9 provinces. Quelle est la situation dans les autres provinces?
Bon, le PNUD est concerné par 9 provinces et 54 territoires. Et les travaux avancent globalement bien dans l'ensemble. Sur l'ensemble, on a à peu près une cinquantaine d'infrastructures qu'on remet ce mois. Et ça va se poursuivre ainsi dans les mois à venir. Et nous sommes confiants que nous allons atteindre les objectifs qui ont été fixés selon l'accord que nous avons conclu avec le gouvernement de la RDC.
Monsieur Damien, le prestateur des fois accuse PNUD de n'avoir pas honoré la facture de leurs prestations et ce qui leur pousse parfois d'arrêter les travaux. Est-ce que vous avez pu régler ces problèmes ici?
Bon, vous savez, le PNUD a toujours payer ses prestataires. Et donc, lorsque les entreprises arrivent à 20% et qu'on doit leur payer 40%, on doit vérifier d'abord que ce qui a été réalisé est effectif. Donc, tous ces processus font croire à certains que, bon, il y a des retards dans les paiements.
Monsieur Damien Mama, merci.
Merci, madame.
Et c'est la fin de cette session de vos nouvelles sur Radio Kapi, mise en onde pour vous par Jean-Noël Mokondo sous la supervision et coordination de Martin Sebujangwe et Élisée Tchiko Tachivueta. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.